jóvenes. Ils ont le même endroit. Au même endroit. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce soir de nous avoir permis ce rassemblement. Nous sommes dans une zone de turbulence extrême. Mais nous nous accrochons à toi, c'est vers toi que nous regardons. Et c'est sur toi que nous comptons pour pouvoir tenir ferme tout au long de cette zone. Nous sommes là, l'assemblée tout entière est un peu effondrée. Mais toi, tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous redonne la force. Non seulement nous ici présents, mais ceux qui sont absents, qui sont là-bas au deuil, ou bien la famille elle-même. Nous te remettons tout ce monde, nous avons besoin de ton réconfort, que tu nous assistes pour tout cela. Nous ne méritons pas ce que nous te demandons, ces choses arrivent à cause du péché dans le monde, et nous sommes tous coupables, mais nous comptons sur ton pardon que nous te demandons aujourd'hui, selon ce que ton Fils bien-aimé nous a appris à prier. Pardonne-nous nos offenses. Sois béni, sois loué. Nous te prions de nous assister pendant les quelques instants que nous passerons. Que tu nous aides à tout conduire d'une manière digne de tes enfants. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas, mais avec ton Saint-Esprit, nous y arriverons. Te remettons tout ce qui va se passer, déjà à partir de maintenant, ce culte, le culte de dimanche, les veillées qui sont prévues demain, dimanche, et ainsi que les funérailles. Ce sont des moments difficiles, mais nous savons qu'avec ton aide, nous passons. Car tu nous as dit que tu ne nous donneras pas, tu ne nous éprouveras pas au-delà de nos moyens. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Si je n'oublie pas dimanche, je renouvellerai. Mais l'Assemblée a les salutations du frère Jean-Pierre Ngachi des États-Unis. Ainsi que ses fraternelles condoléances à l'Assemblée. Le frère Paul aussi a adressé ses condoléances à l'Assemblée. Que je vous adresse au nom de Jésus-Christ. Et nous comptons sur le Seigneur. Aussi, dans ces moments difficiles, nous allons lire un texte. Dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Verset 22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Amen. Lisons aussi Hébreux 12. Nous donc aussi, versets 1 et 2, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Amen.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous intitulerons le sujet de ce soir en guise d'exhortation dans cette tourmente, dans cette turbulence dans laquelle nous nous trouvons. Dans ce genre de situation, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est tourner les regards vers lui.
Amen.
C'est le titre. On n'a pas à tourner les regards vers l'Assemblée. On n'a pas à tourner les regards vers le pasteur. C'est le moment où l'Assemblée, le pasteur, ne peuvent rien. Amen. Ne peuvent pas grand-chose. Par contre, lui peut tout. C'est ce que dit Job. Job, après être passé par les turbulences, Job s'écrit dans Job 42. Verset 1 et 2, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. »
Amen.
Amen. Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est la vérité. Rien ne s'oppose à ce que Dieu dit. Ce que Dieu fait, ça peut nous écorcher, ça peut nous faire mal, mais Dieu a toujours raison. Comme je dis souvent, David dit dans un psaume, je ne sais pas lequel, mais je pourrais toujours vous le rechercher si vous en avez besoin, « Les jugements de l'Éternel sont droits et justes, et tous ceux qui ont le cœur droit approuveront. » Ça veut dire que le jour où Dieu nous dira pourquoi ces choses se passent, nous, si nous avons le cœur droit, nous approuverons sa décision. C'est-à-dire que nous reconnaîtrons que ses décisions ont été les meilleures. Et nous lui faisons confiance. Et on est en droit de se demander dans la tempête que nous traversons, donc, quelle direction nous devons tourner nos regards ? Dans quelle direction nous devons regarder ? Doit-on regarder au pasteur ? Doit-on regarder à l'église ? Doit-on regarder à qui que ce soit ? Non, tournez les regards vers Jésus. Et nous voulons, parce que tourner les regards vers lui, c'est le moyen le plus réconfortant en ce qui nous concerne. Et lui, il est la parole. Il est la parole, il est ce qui était dès le commencement. Amen. Dans Jean chapitre 1er. Au verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est la parole. Et cette parole nous est transmise dans ce que nous appelons la Bible. La Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. Ça va? Et c'est là que nous allons rechercher ce dont nous avons besoin ce soir. La Bible N'est-ce pas? Elle nous console. La Bible renferme ce que nous appelons les Écritures. Et dans Romains 15, l'apôtre dit... Verset 4, il dit, Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction,
Amen.
C'est-à-dire pour nous instruire,
Amen.
Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures,
Amen.
Les Écritures apportent une consolation.
Amen.
Si nous prenons les Écritures, telles qu'elles sont, c'est-à-dire en tant que parole de Dieu, eh bien, la consolation à nos maux se trouve dans ces Écritures. La consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et ces mêmes Écritures avaient la réponse au désarroi et à la tristesse de Cléopas et de son ami sur le chemin qui rentrait chez eux dans leur village, là où ils avaient mis toute leur espérance, semblait s'être écroulée et ils rentraient chez eux, étant rentrés dans leur village à Emmaüs, donc ayant le cœur vide, étant complètement abattus. Et Jésus les a rejoints sur ce chemin. Il ne leur a pas dit directement, écoutez, c'est moi, je suis ressuscité. Ça, les femmes l'ont déjà dit le matin. Non, Jésus ne se présente pas à eux comme étant le ressuscité, mais il fait route avec eux. Amen. Pendant qu'il fait route avec eux, ils étaient complètement abattus. Ils ont passé, je ne sais pas combien de temps ils ont passé avec lui, si c'est pendant tout le temps de son ministère, pendant 3 ans et demi. Et comme il nous est dit dans Marc 10, avant d'arriver, d'aller dans Luc 24, dans Marc 10, il y a cette parole. C'est Pierre qui la prononce. Il dit ceci. Au verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Cléopas, peut-être, Cléopas et son ami sont peut-être dans le « nous » là, le « nous » que Pierre prononce, disant, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et ayant tout quitté, ils ont quitté à cause de Jésus, verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ils ont quitté leur maison. Ils étaient d'Emmaüs, ça va? Ils ont quitté leurs frères. Donc, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Donc, vous voyez ce qu'ils ont quitté. Et ayant quitté tout cela, croyant que, comme eux-mêmes disent dans Luc 24, ils disent ceci, prenons Luc 24, verset 21, ils avaient cette espérance, mais c'était pour eux, quand ils ont vu Jésus marcher, Jésus accomplir les actes qu'il accomplissait, ils étaient certains de cela, mais ils étaient complètement désabusés. Au verset 21, Luc 24, ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Notre situation est compliquée et nous croyions vraiment que ce serait lui. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et Jésus les a rencontrés donc en chemin, et c'est à lui qu'eux disent ça, qu'ils espéraient que ce serait lui. Finalement, selon eux, ils se rendent compte que ce n'est pas lui. Alors, vous pensez bien combien ils étaient désemparés. Et nous, nous sommes désemparés, non pas que notre frère nous aurait délivré de quoi que ce soit, mais nous aimions la compagnie de notre frère. Nous aimions, comment dirais-je, son amour, nous aimions comment il entourait tout le monde. Et une fois, quand j'étais chez eux, j'ai entendu des gens, ce ne sont pas des gens qui viennent de l'Assemblée, c'était des jeunes gens qui étaient là. Ils ont dit une chose, je n'ai rien dit, je les ai juste écoutés, j'étais là-bas à table. Ils ont dit, ils mettaient à l'aise tout le monde. Et c'est vrai. C'est ce qu'eux, ils avaient comme témoignage de lui. Et c'est vrai qu'ils mettaient tout le monde à l'aise. Alors, quand Cléopas, dans l'état où ils étaient, Jésus, quand il les rejoint, Jésus ne commence pas à leur dire, « Voilà, c'est moi, regardez, c'est bien moi. » Non, non. Il a, verset 25, Jésus dit juste ceci. Alors, Jésus leur dit. Donc, il raconte ce qui s'est passé le matin. Les frères racontent ce qui s'est passé le matin. Et ils disent que des femmes sont allées. Donc, verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, quand des anges vous annoncent que Jésus est vivant, ça ne peut être que la vérité. Amen. Ce sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent avoir le salut, obtenir le salut. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Puisqu'il est vivant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse encore dans le sépulcre? Oui. Au verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alors, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyez l'importance des Écritures. Ces Écritures sont là dans un but et ces Écritures ne peuvent souffrir d'aucune interprétation particulière. Ces Écritures, n'est-ce pas, sont là, nous exhortent, elles nous montrent le chemin, les Écritures nous consolent de tous nos maux, les Écritures nous encouragent, les Écritures nous réprimandent, mais les Écritures font tout cela. Et ils ont reconnu que quand Jésus leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait, eux-mêmes, ils ont reconnu que les Écritures leur ont apporté quelque chose. Oui, puisque au verset 32, « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» En ce qui nous concerne ce soir, nous qui sommes exercés à lire, à suivre, à méditer ces paroles, à les lire, à les écouter, à en écouter la lecture, ou bien à les lire nous-mêmes, ben, en ce qui nous concerne, eh ben, nous devrions, à tous nos maux, puisque les Écritures ont réponse à tous nos problèmes. Il n'y a aucun de vos problèmes qui ne trouve de réponse dans les Écritures. Aucun. Si vous n'en trouvez pas et que le problème vous tracasse, priez Dieu, demandez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, j'ai tel problème, mais montre-moi la solution. Et lorsque Dieu vous montre la solution, vous allez voir combien le mal va, combien vous allez vous apaiser. Peut-être le mal ne sera pas résolu à ce moment-là, mais comme ce qui est écrit ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli ce don pourquoi elles ont été annoncées, eh bien, soyez sûr que Dieu prends en charge ce problème. Amen. Et c'est ça notre réconfort. Lorsque ce genre, lorsque nous recevons un coup sur la tête, bien, nous avons ceci en tout cas, nous avons la parole pour nous dire qu'est-ce qu'il en est. Et les brochures que nous lisons, c'est la parole de Dieu révélée. Oui, je crois que le frère a oublié sa brochure ici, mercredi. Et ça, c'est la parole révélée de cet âge. Oui. Et là aussi, et c'est, normalement, cette parole révélée doit être scripturaire. C'est-à-dire, elle doit entrer dans les Écritures. Cette parole révélée ne peut pas, être en dehors des Écritures. Et ce dont la réponse de nos problèmes modernes aujourd'hui peut se trouver aussi là-dedans. Et lorsque vous trouvez là-dedans, obligatoirement, vous devez les retrouver dans la Bible. Amen. Toujours. Et quand vous les retrouvez ici, et puis vous les retrouvez dans la Bible, sous l'une ou l'autre forme, le Saint-Esprit vous attestera, vous dira, c'est ça. C'est de ça que je parle. Eh bien, c'est quelque chose qui vous apaisera. Lorsque on reçoit un tel coup sur la tête, avant, quand on avait encore ces appareils à cassette, parce que moi, je ne me retrouve pas avec vos clés USB ou de ces choses-là, je ne me retrouve pas. Je vais une fois demander au frère Benoît de m'expliquer ces choses. Mais bon, je ne me retrouve pas du tout. Mais quand il y avait les cassettes et que je recevais un coup sur la tête, je prenais, ouais, le grand appareil, le lecteur de cassette, là, vous le mettiez, vous preniez une cassette, vous le mettez. Et ça vous réconfortait. Vous n'avez peut-être plus la force de lire, de vous asseoir et de lire, mais vous pouvez écouter. Et Dieu, même, ce sont des choses prêchées il y a 60 ans, il y a 50 ans, mais ça réconforte toujours. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, ce qui était valable il y a 2000 ans, c'est toujours valable aujourd'hui. Les problèmes qu'ils ont rencontrés il y a 2000 ans, nous les rencontrons aujourd'hui. Les femmes, si les femmes qui étaient allées au cimetière le jour de la résurrection, enfin le dimanche matin, si les femmes qui étaient allées au cimetière avaient regardé les Écritures avant d'y aller, puisque nous étions déjà au quatrième jour, puisque pratiquement au quatrième jour, 3 jours étaient passés, et 3 nuits étaient passées, eh bien, les femmes, au lieu de courir vers le cimetière, elles auraient dû courir ailleurs. Ailleurs, où ça ? Matthieu 22, 28. Les Écritures ne mentent pas. Nos yeux peuvent nous mentir, mais les Écritures ne peuvent pas mentir. L'homme va dire certaines choses, mais même si c'est contraire aux Écritures, l'homme finira par corriger. Ce matin, j'ai reçu une vidéo sur TikTok de ce qu'un homme intelligent, n'est-ce pas, avait intelligent, l'intelligence de ce monde. Certains, vous le connaissez, on vous en avait déjà entendu parler, un certain Karl Marx avait dit sur la question juive, ou disant que, bon, alors il a raconté pas mal de choses, d'ailleurs il y a 99,99% de juifs ne savent même plus d'où ils viennent, de quelles tribus ils appartiennent, alors, donc, ce qui fait les revendications qu'ils font là aujourd'hui, n'ont pas de sens. Bref, tout ce qu'un incrédule peut dire. Alors, ça ne peut pas vous ébranler. Alors, j'ai regardé, j'ai lu, je me suis... J'étais dans mon lit quand j'avais lu ça. Je suis resté couché et puis cela m'est venu. J'ai renvoyé une réponse à mon frère. Je lui ai dit, écoute, si Karl Marx avait lu la Bible, il n'aurait pas raconté ça. Parce que depuis Élie le Tishbite pensait que l'Israël était dilué dans les nations. Il dit à Dieu, je suis resté moi seul. Dieu lui dit, non, non, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 hommes que je me suis, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et Paul vient, Paul met cela maintenant en relation avec notre temps. Hein, il dit ceci, Paul dit, avant d'aller dans Matthieu 28, Paul dit dans Romains 9, quand vous êtes entièrement dans la Bible, vous pouvez, comme Pierre, Pierre n'a pas étudié, qui ont passé toute leur vie à étudier la Bible. Et eux-mêmes, les pharisiens, étaient étonnés. Ils ont regardé Pierre et Jean, ils ont dit, mais ce sont des gens sans instruction. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir tout ça? Amen. C'est que ça, c'est la connaissance du Saint-Esprit. Ouais, donc, les Karl Marx, ils nous impressionnaient quand nous allions à l'école. Mais depuis que nous lisons la Bible, ils ne nous impressionnent plus. Amen. Ils ne nous impressionnent plus. Ils peuvent venir avec des grands mots, communisme, socialisme, la dictature du prolétariat, ça c'est leur problème. Amen. Nous venons avec la volonté de Dieu. Dans Romains 9, il nous est dit, verset 27, Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, c'est-à-dire ils sont nombreux, n'est-ce pas? Un reste seulement sera sauvé. Alors je dis aux frères, tu vois, le reste là, c'est peut-être le 0,01% qui restait. Dieu ne donne pas de chiffres. Marx, lui, il en donne. Dieu ne donne pas de chiffres, mais quand tu regardes le sable de la mer et un reste, c'est combien de pourcents? Oui. Non, il ne fait que dire ce que la Bible dit, lui croyant contredire la Bible. Dieu nous dit bien qu'en ce temps-ci, il y aura un reste. Dieu ne dit pas que tout Israël, non. Le sionisme, toutes ces choses, c'est de la politique. Et encore, Paul nous dit, Paul, Frère Branham nous dit que le sionisme, c'est, la politique, pardon, c'est une religion. Hein? La politique, c'est une religion. Effectivement, c'est une religion. Quand on regarde, par exemple, le cas de notre pays, à nous, enfin, le Congo, pas vous, mes sœurs, mais le Congo, là-bas, chez nous. Regardez comment les présidents sont accueillis par les gens. Ils sont accueillis par des gens comme des dieux. Ils sont devenus leurs dieux. Ils sont là, ils se prosternent. Parfois, ils se prosternent même. Comme les catholiques, ils se prosternent même devant la maman du président. Vous voyez? C'est une religion. C'est que les gens ne comprennent pas. Alors ils deviennent idolâtres, ils disent, oui, c'est un oint de Dieu. Bien sûr qu'il est oint par Dieu. Parce que Seigneur a dit à Pilate, tu sais, là où tu es, tu n'aurais aucune autorité si cela ne t'avait pas été donné des cieux. Exact. Et c'est la même chose pour Philippe ici, c'est la même chose pour le président congolais, c'est la même chose pour Poutine, c'est la même chose pour tout le monde. Ils sont tous là dans un seul but, parce que Dieu dit qu'il a suscité Pharaon dans un but. S'il a suscité Pharaon dans un but, il a suscité tous les autres dans un but. Vous pouvez venir vous prosterner devant Pharaon, c'est votre problème, c'est votre Dieu. Mais moi, je ne me prosterne pas devant Pharaon. D'autres se prosternent devant le pape. Moi, je ne me prosterne pas devant le pape. Amen. Le pape peut venir avec sa doctrine de Marie. Moi, je ne me prosterne pas devant Marie. C'est une sœur que je respecte, que Dieu a choisie comme vase pour porter le Seigneur. Je la respecte. Je ne vais pas lui manquer de respect, mais elle n'est pas ma déesse. Amen. Elle n'est pas la vôtre non plus. Nous n'en avons qu'un seul. Comme nous avons lu dans Ésaïe 45, là, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu dit, je suis Dieu, or moi, il n'y en a point d'autre. Oui. Nous ne sommes pas là pour regarder aux hommes, mais tourner les regards vers Jésus, vers lui. Donc, si les femmes étaient allées au cimetière, avaient regardé, avaient lu les Écritures, elles auraient su que là où elles sont allées chercher Jésus ce jour-là, ce n'était pas le bon endroit. Matthieu 28. Verset 5. Mais l'ange prit la parole, c'est un ange qui était descendu du ciel, qui est venu rouler la pierre, s'est assis dessus. Bon, on peut lire au verset 2, même au verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Est-ce que Jésus était dedans? Non. Comme on a vu dimanche, le corps que Jésus avait lui permettait de faire fi des obstacles. C'est-à-dire que la pierre ne pouvait pas le retenir. Amen. Les portes ne pouvaient pas l'empêcher d'entrer ni de sortir. Ni les fenêtres. Vous pouvez clore tout ici hermétiquement. Ainsi, il a envie de nous apparaître, il apparaîtra. Amen. Vous pouvez faire comme Jéricho, personne n'entre, personne ne sort, mais Dieu, s'il a envie d'entrer, il entrera. Gloire à Dieu. Et voici, il y eut un grand monde, donc un tremblement descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, Jésus était déjà ressuscité, il n'était plus dans le sépulcre. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit, comme c'est écrit. Il est ressuscité. Combien de fois il ne leur a pas dit? Nous avons vu ça dimanche. Il leur a dit, le Fils de l'homme devra souffrir entre les mains des hommes, et ainsi de suite, et il ressuscitera le troisième jour. Il leur avait dit, ils étaient prévenus. Il est ressuscité comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et il n'y est plus. Il n'a pas reçu un autre corps, c'est le même corps qui s'est relevé, et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède, où ça? En Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Et un autre évangéliste, je crois que c'est Luc qui dit, il est en Galilée comme il vous l'avait dit. Donc si ces femmes avaient pensé à ce que Jésus avait dit, à ce que la parole avait dit avant, elles ne seraient pas parties au cimetière, elles seraient parties le chercher où? En Galilée. Amen. Gloire à Dieu. Tout comme aujourd'hui, tel que nous sommes là, si nous voulons tourner les regards vers lui, nous devons tourner les regards vers lui, là où il est censé être. Parce que si nous tournons les regards dans le sens opposé, nous ne le verrons pas. Ou si nous tournons les regards à gauche ou à droite de là où il est, nous ne le verrons pas non plus. Tournons les regards vers lui. Alors, qu'est-ce qui rend témoignage que Jésus est là? Jésus a dit dans Jean 5... Verset 39, il dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, si vous voulez le voir, lisez la parole. Si vous, c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Les Écritures rendent témoignage de lui. La création tout entière parle de lui. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas ? Où la création tout entière soupire pour voir la manifestation des fils de Dieu. Mais la création entière sait que, vous savez, le soleil nous prêche chaque jour de la résurrection.
Amen.
Chaque jour. Et il y a un temps de résurrection.
Amen.
Si vous suivez, le monde appelle ça la météo. Si vous suivez la météo aujourd'hui, la météo, on va vous dire ce qu'ils appellent les éphémérides, c'est-à-dire les événements climatiques qui vont se passer demain. Ils vont vous dire le soleil va se lever demain à telle heure. Ils vont vous donner une heure précise à laquelle le soleil va se lever. Pourquoi sont-ils capables de nous donner l'heure précise du lever de soleil et même l'heure précise de son coucher? C'est parce que la création de Dieu est parfaite. Et la création tout entière obéit aux lois de Dieu. L'homme, tout ce qu'il fait, c'est interpréter les lois divines. Et Dieu lui a permis d'interpréter ça. Pas pour que nous voyons cela comme une banalité. Lorsqu'on vous annonce la météo et que l'on vous annonce le lever, le coucher du soleil et toutes ces choses qui sera nuageux, tout cela,
oui.
ne regardez pas cela comme une banalité,
voilà.
Mais regardez cela comme étant la création divine. Essayez de voir Dieu là-dedans. Vous pouvez voir Dieu là-dedans parce que Dieu est parfait et ses lois sont parfaites. Alors, quand je regarde au cycle du soleil, et même le cycle des saisons, moi, je ne me fais aucun doute, enfin, je ne nourris aucun doute. Je sais une chose, il y aura une résurrection.
Amen.
Et qu'un jour, nous serons à nouveau ensemble.
Amen.
Quand le soleil s'en va, comme maintenant, il est prêt à s'en aller, ce n'est pas la fin du soleil, vous savez. Et pour nous, ici en Belgique, oui. Maintenant, celui qui avait besoin du soleil peut pleurer après le soleil. Il va pleurer, mais demain, le soleil sera. Mais de toute manière, quand nous pleurons après le soleil ici en Belgique, puisqu'il est en train de s'en aller, cela ne veut pas dire qu'il peut faire noir. Noir comme dans, je ne sais pas moi, comme dans un trou sans issue. Il peut faire noir comme une nuit... nuageuse où toutes les étoiles sont cachées, cela ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Le soleil existe. Il est où ? Il est quelque part. De l'autre côté, là-bas, de l'Atlantique. Notre frère, on ne le voit plus, mais lui, il est quelque part. Il est quelque part. Et quelque part, Paul nous dit, il y a le paradis. Le Seigneur nous a parlé du séjour des morts, c'était avant sa mort et sa crucifixion, mais le jour de sa mort, il parle du paradis. Alors, nous tous qui sommes ici ce soir, quand nous venons à l'Assemblée, si nous ne le voyons pas au moment où nous nous assemblons, c'est tout simplement c'est parce que nous avons notre idée de ce que c'est que les rassemblements à l'Assemblée. Mais si nous savions ce que c'est que réellement un rassemblement à l'Assemblée, mais vous le verrez. Pourquoi ? Parce qu'il dit ceci dans Matthieu 18, on connaît ça. Dans Matthieu 18, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il y en a deux ou trois ici au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il doit être visible. Il doit être visible pour eux. Certains viennent à l'assemblée, ils voient quoi ? Ils voient la médisance. D'autres voient quoi ? Ils voient la calomnie. Ils voient de l'amertume. Mais un autre, quand il vient, il ne vient pas ici pour voir si les gens sont médisants ou pas. Il vient voir si les gens sont assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, il va voir le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, tout dépend de ce à quoi vous regardez. Si vous regardez à la médisance, vous allez trouver des médisances. Nous sommes quasi tous médisants. Surtout la médisance est très subtile, hein, dans la mesure où, dans la médisance, vous dites ce qui est vrai. Et parce qu'on dit ce qui est vrai, on croit que ben, on est quitte. Eh ben non, la médisance, c'est ça le problème. La calomnie passe encore. La calomnie parce que c'est gros, hein, on ment. On ment, on sait très bien qu'on ment, on raconte n'importe quoi sur une personne, sur d'autres. Mais ça aussi, si on veut voir ça dans cette assemblée, on la verra, on la trouvera. Mais ne venez pas pour chercher la calomnie, ne venez pas pour chercher la médisance, ni même l'amertume, ni même regarde, ne venez pas pour voir si on va bien vous traiter ou pas. Non, venez voir Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Donc, il faut, non, c'est ce que le frère dit, il faut tourner le regard vers où l'Écriture dit qu'il est. Alors, vous le verrez. David, lui, il savait que Dieu était sur les montagnes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Il levait les yeux vers les montagnes. Quand il avait besoin d'aide, nous avons besoin de consolation. Nous voulons être consolés. Dieu a un consolateur qui nous a promis. Ce consolateur nous est destiné. C'est une promesse divine. Alors, quand nous sommes dans cet état-là ce soir, on est peut-être abattu, mais on n'est pas... Comment il dit ça, l'apôtre, dans 2 Corinthiens 6 ? On va un peu voir ça. Il dit... On va juste lire le verset 10. Nous sommes regardés comme étant attristés. Et pourtant, nous sommes toujours joyeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Saint-Esprit qui n'est pas triste, c'est le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? C'est l'amour, la paix, la joie. Donc, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Alors, David, quand il était dans l'angoisse, quand il était dans le besoin, il avait besoin que Dieu vienne l'aider. Si la souffrance est trop forte en ce qui nous concerne, faisons comme David. Ces choses ont été écrites pour nous instruire. Hein, pour nous instruire. Dans le psaume 121, il est dit ceci. David dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Il pose la question, « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Vous voyez, quand il s'imagine, il a besoin d'aide de Dieu, quand il s'imagine pas, quand il réalise que c'est le Créateur des cieux et de la terre, n'est-ce pas, qui a fait les cieux et la terre, justement, que Dieu est le Créateur, quand il réalise ça, il sait que c'est le seul qui peut le sortir de son problème.
Et il dit, alors je lève les yeux vers l'Éternel, dans le secours, vers les montagnes, d'où me viendra le secours, parce que Dieu est en haut. Pour lui. En tout cas, nous avons même cet avantage ce soir, que Dieu est en nous. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, vous vous imaginez bien, quand David dit ça, vous comprenez pourquoi David dit « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. » Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas de mal. Et c'est notre cas ce soir. Même dans ces situations, nous ne sommes pas abattus. Nous avons toujours cette espérance. Nous sommes tristes. L'apôtre nous dit que nous avons le droit d'être tristes. Il dit, ne soyez pas affligés comme les autres. Mais on peut être affligé. Nous sommes affligés. Nous sommes tristes, c'est vrai. Mais nous avons cette confiance que Dieu reste celui qui ressuscite les morts. Un autre chantre, lui, il a vu la grandeur de Dieu dans ce cantique, Dieu Tout-Puissant. Je regardais une vidéo que l'on m'a envoyée, c'était justement sur les funérailles de Didier, le grand frère du frère Didia. Eh bien, justement, il y a une sœur qui a chanté ça, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. Et c'est là que l'on voit la grandeur de Dieu. Frère Branham, et un jour, il regardait à un aigle. Et il regardait l'aigle dans la forêt. L'aigle est descendu. Et il y avait, je ne sais pas quel animal qui était là, qui essayait par tous les moyens de perturber l'aigle. L'aigle ne s'en occupait même pas. Il tournait autour de l'aigle, l'aigle ne s'en occupait même pas. Et puis à un moment donné, l'aigle en a eu assez. L'aigle a juste fait un battement, un seul battement d'aile, et il était déjà sur les hauteurs. Et quand il a fait ça, le frère a regardé, il a dit, oh, il a commencé à pleurer.
Amen.
À voir la grandeur de Dieu, tellement l'aigle n'avait pas besoin de battre ses ailes, non. Il a battu une fois, deux fois, l'aigle est parti sur les hauteurs. Il a vu la grandeur de Dieu. Et vous et moi, ce soir, nous pouvons aussi voir la grandeur de Dieu. Partout où nous passons, partout où nous allons, hein, chez les catholiques, on nous disait, on nous faisait répéter ça, Dieu est partout sur la terre, dans les oui, mais on peut voir Dieu partout. Certains. On peut voir Dieu partout. Dans les profondeurs de la mer, dans les cieux, vous pouvez voir Dieu partout. Vous le voyez au travers de ses œuvres. Et vous voyez la grandeur de Dieu. Amen. Quand vous lisez, je crois que c'est le serpent écrasé, je crois que c'est ce message-là, il parle de la résurrection d'un poisson. Le frère. Dieu a ressuscité un poisson. Parce que quand c'est un homme, hein, les scientifiques viendront vous dire c'était un coma. Non, ce n'est pas un coma. Le petit Finlandais là, ce n'était pas un coma. Si vous voulez voir les photos, les images, ceux qui n'ont jamais vu, moi, je n'ai jamais vu, moi, je le crois, je n'ai pas besoin d'aller voir ça.
Amen.
Mais celui qui a des doutes peut aller à Krefeld. Le frère Franck a le journal qui a relaté l'affaire. Un journal. Si vous croyez plus aux journaux, il n'y a pas de problème. Parce qu'un journal va vous dire qu'il y a eu une inondation à Dubaï. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça à la télé? Qui nous dit que c'est le journal télévisé. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu une inondation à Dubaï? Mais on le croit, parce que ce sont des journalistes. Alors, si vous croyez ces journalistes-là, pourquoi est-ce que moi, je ne croirais pas les évangélistes ici?
Amen.
Eh bien, eux, ils nous relatent aussi ce qu'eux, ils ont vu. Eh bien, les journalistes là-bas à Dubaï, ils nous relatent les inondations qu'ils ont vues. OK. Mais ici, Esaïe nous relate ce que Dieu lui a montré. Matthieu nous relate ce qu'il a vu. Jean nous dit ceci. 1 Jean, chapitre 1er. Amen, amen, amen. 1 On a facile à croire les journalistes. Qui t'a dit ça? Les journaux. Mais alors, pourquoi tu ne crois pas ce que la Bible dit? Est-ce que tu étais là? Non, je n'ai pas vu, mais les journaux nous l'ont dit. 1 Jean, chapitre 1er. Qui vous dit qu'il y a une guerre en Ukraine? Vous avez été en Ukraine, vous?
Non.
Voilà. Mais il nous annonce qu'il y a une guerre en Ukraine. OK? Il y en a une. C'est parce que nous les croyons. Maintenant, si la Bible m'avait dit qu'il y aura une guerre en Ukraine, est-ce que j'aurais cru? Moi, j'y aurais cru. Amen. Jean dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, pas avec les yeux d'un autre, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi.
Amen.
Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Frère François, qu'est-ce qui te fait croire que ce que Jean dit est vrai? Eh bien, je sais que c'est vrai. Parce que Jean a été amené à cause de cette parole sur l'île de Patmos. Il a été là-bas, c'est une île où personne d'entre vous n'accepterait d'y aller. Je connais des gens à qui vous pouvez offrir un billet gratuit pour aller en Australie, ils n'iront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de serpents là-bas, ils ont la peur des serpents, ils vous disent... Envoyez-moi où vous voulez, mais pas en Australie. Or, cette île-là, l'île de Patmos, Frère Branham nous dit que c'était une île infestée de serpents. C'est là-bas qu'on y mettait, c'était une île quasi invivable, c'est là-bas qu'on y jetait les malfaiteurs. Lui, on l'y a jeté à cause de la parole de Dieu qu'il prêchait. On lui a demandé de renier ça, il n'a pas voulu. Il a dit, ce que j'ai annoncé, je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. Pierre est mort, il a accepté la mort, on lui a demandé, je peux vous montrer ça, dans Jean aussi d'ailleurs, dans Actes chapitre 4 ou 5, là, dans chapitre 4 je crois, où on les menace, chez Actes 5, où on les menace de ne plus prêcher en ce nom-là. Mais non, et ils disent, mais... Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Ils disent non. Ça, vous ne pouvez pas nous empêcher d'en parler. Parce qu'ils ont vécu. Tous ceux qui essayent de dire que les disciples jouaient un jeu, ce n'était pas un jeu. Ils y ont laissé leur vie. Paul, les frères le supplient. Acte 20. Les frères le supplient. Paul ne va pas à Jérusalem. Mais Paul y est allé. Paul était certain... Il était certain de ce qu'il a vécu sur la route de Damas. Personne ne pouvait lui enlever ça. Les tribulations, les souffrances, les persécutions, rien ne pouvait lui enlever ça. C'était une réalité. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a vu, il a entendu, il a touché. Et puis Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, à moi le dernier, comme à l'avorton. Je l'ai vu. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, Frère Abraham dit, toutes les fonctions de ce à quoi vous regardez.
Oui.
Si vous regardez aux médisances, vous verrez les médisances. Tout est fonction de ce qui détermine la direction de votre regard, n'est-ce pas? Tout est fonction de l'endroit où vous le cherchez. C'est Frère Abraham qui le dit. Tout est fonction de la raison pour laquelle vous l'attendez, la raison pour laquelle vous le cherchez. Si vous cherchez la consolation, il vous consolera.
Amen, amen.
Il y a un frère qui a chanté, n'est-ce pas, qui a composé un cantique, il dit « J'irai sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, n'est-ce pas ? Et si les cailloux me blessent un peu, et s'il y a des problèmes, il dit « Le Seigneur, Jésus me consolera. »
Amen.
C'est notre consolateur. Alors, nous ce soir, vous ce soir, et moi, où tournons-nous notre regard dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? Et dans quel but, nous allons dire d'abord, où tournons-nous notre regard? Nous répondons, nous le tournons vers Jésus. Alors, dans quel but nous tournons le regard vers lui? Cela dépend simplement de ce que nous voulons aller chercher chez lui. Et ce que nous allons chercher chez lui, c'est notre consolation. Vous savez, Zachée avait cherché à le voir. Et Zachée l'a trouvé. La Bible dit, Zachée, n'est-ce pas, il cherchait à voir qui était Jésus. N'est-ce pas? Cette question-là le troublait. Est-ce que c'était réel ce qu'on lui racontait sur Jésus, ce que ses parents lui ont raconté, ou plutôt ce n'était pas réel? Mais dans Luc 19, il nous est dit au verset 2, « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. » Et ce qui est remarquable avec Zachée, quand il cherchait à voir qui était Jésus, c'est que certainement c'était un désir depuis longtemps qui voulait le voir, mais quand le moment est arrivé, Zachée savait par où Jésus devait passer. Et ça, c'est important. Vous devez savoir où il est. Et qui nous dit où il est? Ce sont les Écritures. Ce n'est pas le pasteur, ce sont les Écritures. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il aurait couru dans une autre direction, hein, mais il savait où il savait ce qu'il faisait. Il y a quelque chose en lui qui savait où le chercher. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Alors, j'aime beaucoup cette phrase, parce que Jésus devait passer par là. Devait. Pour lui, ce n'est pas possible que ça soit autrement. C'est par là qu'il doit passer. Alors, nous avons besoin de lui. Si nous savons pas où il passe, où il est, là où deux ou trois sont assemblés, c'est là que nous trouvons la consolation. Vous savez, le vide que le frère nous laisse, c'est difficile de le combler. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Sa place, là, moi, je vois là où il était souvent, ça fait mal. Hein? Mais moi, j'ai confiance que Dieu comble, que Dieu comblera cela. Alors, nous cherchons quoi? La consolation. Oh, la consolation d'Israël, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi nous vous demandons de tourner le regard vers lui. Luc chapitre 2, n'est-ce pas? Nous allons voir et nous allons prier. S'il est la consolation d'Israël, pourquoi ne serait-il pas notre consolation également? Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oui, vous pouvez continuer. À un moment, il était tellement bien consolé. Au verset 29, il prie. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. C'est ça qui est important. Puissions-nous avoir cette paix-là en Jésus-Christ, selon que lorsque nous nous disons bonjour, nous disons souvent shalom. Que nous ayons cette paix-là. Tournons le regard vers lui. Prions le Seigneur. Dieu vous bénisse. Père Céleste, c'est Pierre qui disait à qui d'autre irions-nous ? Tu as la vie, les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de consolation. Conduis-nous dans les Écritures, que nos cœurs brûlent au-dedans de nous, comme tu l'as fait avec nos frères qui rentraient à Emmaüs. Puisses-tu nous assister, nous parler de ces choses qui ont été dites par les prophètes autrefois. Puisses-tu nous apporter ces paroles de consolation dont nos cœurs ont besoin. Et surtout, nous aider, aide-nous, Seigneur, à affronter les jours à venir, qui seront des jours difficiles pour la famille d'abord et pour nous ensuite. Mais nous comptons sur toi, ô Père, pour que ces choses se fassent au milieu des enfants de Dieu, avec la confiance que nous pouvons avoir en toi. Sache, comme la sœur avait demandé ce cantique dimanche, tiens-nous par la main pendant que nous marchons, pendant que nous pleurons, pendant que nous chantons, pendant que nous nous appuyons sur toi. Oh, tiens-nous par la main, conduis-nous, oh Seigneur notre Dieu. Et si notre marche est encore longue, nous comptons sur toi pour l'accomplir d'une manière qui te soit agréable jusqu'au bout. Nous avons chanté aussi souvent ce cantique, jusqu'au bout nous voulons te suivre, nous te suivons Père, nous allons avec toi. Ne nous laisse pas parce que nous, parfois la force nous manque de tenir ta main, mais toi tu es toujours le Dieu fort. Tu n'as jamais faibli Père, que tu nous assistes, que tu nous conduises. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous nous en remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons adressé notre prière. Amen. Que nous reconduise, Père, chacun d'entre nous dans sa maison. Dieu vous bénisse.